Vous êtes sur RTL.
RTL.
La vraie beauté, c'est justement d'écrire les choses comme elles sont.
Le journal inattendu.
Je vis une telle tyrannie que de toute façon, je dois écrire de 4h à 8h du matin, point barre. Qu'est-ce que vous croyez? C'est horrible d'écrire. Ben, c'est le plus grand plaisir du monde. Le moindre des prix à payer, c'est que ce soit horrible. Bien sûr que les trois quarts du temps, je n'ai aucune idée de ce que je vais écrire. Mais ce qui paradoxalement me facilite la vie, c'est que je ne me laisse aucun choix. De toute façon, tu y vas, tu y mets, je m'en fous. Tu continues.
12h30, 13h30, Amélie Nothomb, le journal inattendu, vraiment inattendu, avec Ophélie Meunier sur RTL.
Et ça finit bien d'une façon paradoxale et immorale, mais je pense qu'on est tous très contents à la fin.
Bonjour Amélie Nothomb.
Bonjour Ophélie.
Merci d'être avec nous et de prendre les commandes de ce premier journal inattendu de la saison. Je suis ravie d'être avec vous. Et d'être avec les auditeurs d'RTL, on se retrouvera donc tous les samedis en direct de 12h30 à 13h30 pour le journal inattendu. Je voudrais remercier bien sûr Vincent Parisot qui a fait de cette émission ces trois dernières années un immanquable du week-end. Je pèse mes mots et sachez que vous le retrouvez dès ce soir à 18h dans RTL Soir. Amélie Nothomb, vous avez expliqué que lorsque vous commencez à écrire un livre, vous portez une attention toute particulière à l'incipit. Ce sont les premières phrases du livre. Vous enlevez tous les mots en trop. Ça doit être clair, net et précis pour que ce soit efficace. C'est vrai ?
C'est absolument vrai. Il faut que le début du roman vous prenne vraiment par le col, que ce soit tellement plein d'énergie qu'on soit emporté et pour être sûr de ne jamais lâcher le lecteur jusqu'à la fin.
Alors on peut dire que nous sommes dans l'incipit de cette émission. On va tenter d'être clair, d'être précis, d'être efficace pour qu'elle soit un succès autant que le sont toutes vos œuvres. Vous êtes ici pour nous parler de votre dernier ouvrage, Les Aérostats. Dans ce livre, vous nous donnez plus que jamais envie de développer notre goût pour la littérature et vous abordez aussi la jeunesse. Dans quelques instants, on embarque dans votre aérostat, Amélie Nothomb. On va aussi écouter vos choix musicaux, découvrir vos goûts cinématographiques et surtout tenter de percer un peu plus le mystère de celle qui, chaque jour, sans exception, entre 4h et 8h du matin, prend son cahier, son stylo et écrit d'incroyables romans. Alors, qui est ce génie de l'écriture hein? Qui êtes-vous, Amélie Nothomb? Eh bien, comme chaque samedi, dans le journal inattendu, ça ne change pas. Pour commencer, c'est à vous de vous tirer le portrait.
Ah, sérieusement? Alors, écoutez, je suis donc une Belge qui écrit des livres, qui ne fait strictement rien d'autre que ça. Ma seule activité consiste à écrire et j'en profite, puisque c'est la première de cette émission à la rentrée, je vous livre un scoop. Je viens de commencer à écrire mon 100e manuscrit.
Waouh! Voilà. 100e manuscrit.
Je n'en ai somme toute publié que 28, 29.
C'est le 29e.
Donc, les chiffres parlent. Je publie beaucoup moins que ce que j'écris. J'écris tous les jours de ma vie, sans exception, depuis maintenant plus de la moitié de ma vie.
Vous avez dit d'ailleurs qu'un jour de votre vie en 97,
c'est ça,
vous n'avez pas écrit. Et ça a été une tyrannie. Mais quel mot fort!
Ça a été affreux. C'est-à-dire que écrire est tellement la base de ma vie que ce seul jour où je croyais m'être fait un cadeau, le cadeau de la paresse, a été juste une abomination. Je me suis sentie régresser en moins de temps qu'il ne faut pour le dire jusqu'à l'âge de 13 ans et demi. J'étais à l'acmé de la crise pubertaire. C'était l'horreur. J'étais dans le néant. Donc maintenant, j'ai compris. Ma vieille, tu écris tous les jours sans exception, même si ça ne va pas du tout, parce que si tu n'écris pas, ça sera bien pire.
Ça ne nous donne pas du tout envie d'être paresseux, en tout cas. Dans un instant, on va parler de votre dernier livre, Les Aérostats, et continuer à vous découvrir. Mais d'abord, l'actualité de ce samedi 29 août, avec le grand événement de la journée, le gros événement de la journée, le Tour de France 2020, qui s'élance aujourd'hui de Nice, dans des conditions très particulières. On l'a appris ce matin, si deux cas de Covid sont avérés dans la même équipe, coureur et encadrement compris, elle pourra être exclue. Nous serons en direct de Nice dans un court instant avec nos envoyés spéciaux pour prendre la température. Après Paris et Marseille, si vous vivez à Strasbourg, vous devez aussi depuis ce matin porter un masque en toutes circonstances. Hier, le nombre de cas positifs n'a jamais été aussi élevé en France. La Direction générale de la Santé parle d'une progression exponentielle. Alors, faut-il s'inquiéter? Les explications de notre spécialiste santé dans ce journal. Et puis, c'est un week-end marqué par les universités d'été des différents partis politiques. À Blois. Le PS a mis sur le rassemblement pour 2022. Jean-Luc Mélenchon, patron de la France Insoumise, tente lui de séduire les communistes à Malo-les-Bains. La droite, elle, fait une rentrée plus dispersée et cherche toujours son leader pour la prochaine présidentielle. La météo, avec vous Valérie Quintin, et c'est déjà l'automne hein,
oui,
aujourd'hui.
On a un petit parfum d'automne pour tout le week-end, et puis après on va repasser à l'été dans le courant de la semaine. En attendant, on a surtout des pluies dans le sud du pays, dans le sud-est, hein, vers les Alpes et en descendant jusqu'à la Provence. Ça va tomber dreux tout au long de l'après-midi. À l'arrière, on va retrouver un ciel assez changeant avec des averses orageuses qui sont plus fréquentes près de la Manche ou encore vers le Pays Basque et vers les Landes. Pour les autres, on peut quand même espérer quelques éclaircies pas trop vilaines, notamment sur la pointe bretonne et surtout en Corse. Alors la Corse complètement à l'écart. Non seulement ils vont avoir un temps ensoleillé, mais en plus 31 degrés au compteur cet après-midi à Ajaccio, alors que Brest devrait atteindre péniblement les 17 degrés. Comptez 19 à Lille, 20 à Paris, 21 à Metz et Limoges, 22 à Dijon et Montauban et 24 degrés à Perpignan.
Merci Valérie Quintin. Vous êtes en week-end si vous voulez aller en Corse, prendre un peu de soleil.
Je ne vais pas avoir le temps d'ici c'est demain parti. Matin. C'est trop juste. Mais j'irai bien.
Merci à vous et à 13h, la météo sera faite par notre invité.
Mon rêve, j'ai toujours rêvé Amélie, de faire la météo.
Mais vous m'avez dit là, il y a un instant, c'était
voilà, j'ai réussi ma vie, je vais enfin faire la météo.
Le journal inattendu sur RTL.
Donc l'été c'est terminé, c'est le grand dernier grand retour des vacances bison futé. Voie rouge dans le sens des retours ce samedi si vous avez prévu de prendre la route. Hein, aujourd'hui, soyez vigilants. Où en est la circulation à midi 36, Sarah Lou Bacouche?
Eh bien pour vous qui revenez de l'ouest, hein, vous rencontrez des premiers ralentissements dès le départ de Bordeaux. Engagé sur la 10, ça freine entre les sorties 35 et 36 aux abords de Saintes où s'est produit un accident ce matin. Il vous faut un bon quart d'heure pour traverser le bouchon qui s'est formé en amont. Et pour ceux qui reviennent du sud en direction du nord pour rejoindre l'A7, hein, la traversée d'Aix est bien difficile. Puis comptez ensuite 20 minutes de difficulté pour rejoindre Salon de Provence. En tout, il vous faut bien 3 heures pour rallier Orange au sud de Lyon. C'est le double qu'en temps normal.
Merci Sarah Lou Bacouche. Certains attendront le dernier jour hein, pour rentrer chez eux. Demain aussi, la circulation restera dense. La journée est classée Orange au niveau national dans le sens des retours.
RTL, Tour de France 2020.
C'est dans 1h30, un tout petit peu moins. Top départ pour le 107e Tour de France. Une édition très particulière à cause de l'épidémie. Les règles se durcissent. Si 2 cas de Covid sont avérés dans une équipe en une semaine, encadrement inclus, elle pourra être exclue du Tour. Nicolas Georgerot, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux de RTL sur le Tour de France. Nicolas, finalement, on revient à la règle qui était prévue initialement, hein, c'est ça?
Exactement, décision des autorités qui prévaut, on peut le comprendre, sur les règlements sportifs. C'est un feuilleton qui a rythmé la semaine, mesure qui était attendue. Elle fragilise évidemment les 22 équipes, on l'a vu dès mercredi soir avec la formation belge Lotto Soudal qui a annoncé 2 cas parmi les mécaniciens et soigneurs. Elle sera au départ tout à l'heure, la règle ayant été fixée seulement définitivement ce matin. Alors si la situation se produit les prochains jours, l'exclusion ne sera pas immédiate. Un second test de confirmation sera effectuée sur les personnes. Résultat 2 à 3 heures après le prélèvement. C'est un point obtenu par les équipes et ce, afin d'éviter les faux positifs comme ça s'est produit parfois ces derniers jours sur d'autres épreuves.
Alors même si le contexte est très particulier, le Tour, c'est quand même la plus grande course du monde et cette édition s'annonce tout de même passionnante.
Oui, parce que la saison cycliste chamboulée a rebattu les cartes. Beaucoup de têtes d'affiche sont au départ de cette édition. Bernal, le Colombien, le vainqueur sortant. Roglic, le Slovène, extrêmement ambitieux. Les Français veulent jouer des coudes, se faire une place au soleil, comme Thibaut Pinot qui vise ouvertement le maillot jaune. Ou encore Julian Alaphilippe, lui, en chasseur d'étapes.
C'est vrai que l'année dernière, je suis arrivé au départ du Tour avec déjà quand même pas mal de victoires. Mais je suis quand même plutôt relax ici à Nice, avec l'envie de bien faire et ma forme qui va de mieux en mieux. J'ai pas forcément de pression et c'est toujours spécial de remporter une victoire sur le Tour. Donc ça va être mon objectif pendant ces 3 prochaines semaines.
Le parcours montagneux à souhait va s'y prêter, tracé pour garantir un maximum de suspense jusqu'au bout. Tout à l'heure, après les 156 km autour de Nice, c'est un sprint en revanche qui est attendu en petit comité sur la promenade des Anglais.
Merci Nicolas Georgerot, envoyé spécial de RTL hein, sur le Tour de France. Côté public, il ne sera pas le bienvenu cette année. Les Alpes-Maritimes sont classées en zone rouge. On retrouve sur place Raphaël Vantard. Quelle est l'ambiance autour de vous, Raphaël? Est-ce qu'il y a quand même du monde qui tente de s'approcher?
Ça commence doucement à arriver. Le public s'installe petit à petit hors de la zone de huis clos, c'est-à-dire les 400 mètres autour de l'arrivée et du départ. Ailleurs, le public peut venir. Il est le bienvenu pour encourager les 176 coureurs. Raphaël est ravie. Elle s'est installée à un petit kilomètre kilomètres de la ligne d'arrivée, prête à encourager ses petits chouchous français.
Ouais, moi je veux bien les encourager. Un petit beau Pinot, voilà Philippe, voilà, un peu chauvin.
Yvon, son compagnon, regarde la course cycliste féminine qui vient d'arriver ici à Nice. Fan de vélo, il est fier que le Tour s'élance ici, chez lui, envers et contre la Covid.
Comme c'est les premières étapes, on va pas trop voir de grosses bagarres, mais on est content de les voir ici, dans notre pays, de les voir emprunter nos routes et tout. Donc c'est une belle occasion, malgré l'épidémie et tout ça. C'est bien d'avoir maintenu la chose.
Place au spectacle. Donc oui, la ferveur n'est pas encore celle des grands départs du Tour de France, mais cela frémit. Le public est là, il attend les coureurs et les petits cadeaux de la caravane dans quelques minutes maintenant.
Merci Raphaël Vantard. Vous regardez le Tour de France un petit peu, Amélie Nothomb?
Je ne le regarde pas, mais ça me fait très plaisir que ce Tour de France ait lieu, parce que j'ai perdu mon père au premier jour du confinement, et mon père était un fanatique absolu du Tour de France. C'était pour lui l'événement de l'année de regarder le Tour de France à la télévision. Bon, il n'est plus là, mais je suis sûre que là où il est, d'une manière ou d'une autre, il va regarder le Tour de France et qu'il est trop content que le Tour de France ait quand même lieu.
Et les auditeurs vont pouvoir le suivre aussi, puisqu'à partir de 14h, vous pouvez vivre le Tour de France sur RTL toutes les demi-heures en direct avec nos envoyés spéciaux. Dans l'actualité également, l'épidémie de Covid-19 qui a repris une progression exponentielle en France avec plus de 7000 nouveaux cas enregistrés hier. C'est le chiffre le plus élevé depuis que les tests se déroulent à grande échelle. Une progression exponentielle, que signifie ce mot prononcé par la Direction Générale de la Santé? Faut-il s'inquiéter, Odile Pouget?
Alors exponentielle, ça signifie qu'il augmente de façon rapide et continue. C'est ce qui est en train de se passer avec cette épidémie. Tous les indicateurs sont à la hausse, augmentation du nombre de cas confirmés, les jeunes restent les plus touchés, mais on commence à observer également une augmentation des cas chez les plus de 65 ans, considérés comme une population à risque. Taux de positivité également, aujourd'hui on est quasiment à 4 tests positifs sur 100 effectués, alors que début août on tournait autour de 2%, et hausse également du nombre de clusters, autrement dit des foyers épidémiques, et pour la première fois cela concerne l'ensemble des régions. Donc, que la Direction Générale de la Santé emploie ce mot, ça veut dire qu'il faut être très vigilant, qu'il ne faut rien relâcher, qu'il faut respecter les mesures sanitaires, d'autant que se profile la reprise du travail, le retour en classe, sans compter l'arrivée de l'automne avec l'obligation de passer du temps en milieu clos.
Et chaque jour, on apprend que de nouvelles villes rendent le port du masque obligatoire. On l'a dit, donc après Marseille et Paris, ce matin c'était Strasbourg. Est-ce que d'autres communes vont bientôt être concernées?
Oui, ce sera autour de Bordeaux. Dès lundi matin, masque obligatoire dans le centre ville. Aujourd'hui, selon un décompte du journal Le Monde, le port du masque est imposé en extérieur dans plus de 13 000 communes de 88 départements. Alors, soit dans la totalité de l'espace public, hein, comme dans les grandes villes dont on vient de parler, soit seulement dans certains endroits, les marchés, les ports, les rues très commerçantes et les lieux touristiques.
Est-ce que vous trouvez ça contraignant, Amélie Nothomb, de porter le masque tous les jours en toutes circonstances?
Oui, c'est contraignant, mais c'est une contrainte raisonnable. Voilà, il faut prendre cette menace au sérieux. Le bon côté du masque, c'est que, voilà, on respecte la loi. Moyennant quoi, on peut peut-être aussi penser à autre chose. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est les gens qui ne pensent plus que Covid, qui ne vivent plus que Covid. Il ne faut pas oublier que l'idée, c'est que justement, on veut continuer à vivre. Et pour continuer à vivre, il faut aussi penser à autre chose qu'à la maladie.
Et justement, petit rappel des règles pour ce port du masque. Qui doit le porter et à quel moment précisément?
Eh bien, à peu près tout le monde et tout le temps à partir du moment où on se trouve évidemment dans un espace concerné. Il y a quand même des dérogations. Exempté les enfants de moins de 11 ans, les personnes handicapées, les cyclistes et les joggeurs comme à Paris. Mais attention, à partir de mardi, jour de rentrée scolaire, profs, collégiens, lycéens, tous masqués, y compris à la récréation.
Merci Odile Pouget, spécialiste santé de RTL. Dans un instant, on part à Malo-les-Bains, où se tient l'université d'été du Parti communiste. Jean-Luc Mélenchon, qui est sur place, tente de séduire les communistes alors que la droite, elle, fait une rentrée plus dispersée. A tout de suite.
Le journal inattendu d'Amélie Nothomb avec Ophélie Meunier sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL avec Amélie Nothomb et Ophélie Meunier.
Et on ouvre notre page politique avec l'université d'été du PS qui se tient en ce moment à Blois. Les socialistes, revigorés par des résultats satisfaisants aux dernières municipales, espèrent vivre une rentrée politique sous le signe de la renaissance. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, prononcera son discours cet après-midi. Pour lui, seul le rassemblement permettra d'éviter un nouveau duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen en 2022. Le rassemblement, justement, c'est le mot d'ordre de Jean-Luc Mélenchon en visite à Malo-les-Bains, où se tient l'université d'été du Parti communiste. pour le patron de la France Insoumise. C'est opération séduction avec le PCF, Antoine Decarne.
Oui, le chef des Insoumis a débarqué avec toute son équipe, accueilli par Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF.
Fabien,
ami du jour, bonjour.
Un Jean-Luc Mélenchon qui a tout de suite marqué son territoire.
Ici, je suis un peu chez moi, alors la famille est tumultueuse, hein, comme dans toutes les familles. Mais bon, j'ai été deux fois leur candidat.
La raison de sa venue est très claire, rassembler à sa gauche en vue des prochaines échéances électorales.
Je pense que les communistes et les insoumis peuvent être un pôle en capacité d'agréger tout le reste. Parce que ne racontons pas d'histoire. Les socialistes ont l'intention de soutenir un candidat Europe Écologie Les Verts. Eh bien, moi, j'estime, c'est ma vision stratégique, qu'il peut y avoir un pôle qui se construit, qui soit un pôle de la radicalité concrète et des causes communes.
Une aspiration qui ne plaît pas beaucoup aux militants communistes présents ce matin.
Il fait preuve de beaucoup d'autorité. À mon avis, c'est lui avant tout. J'aime pas le personnage.
On l'a porté aussi, et donc je pense qu'il a pas fait bien les choses.
Je trouve que Mélenchon, il devrait un peu quand même laisser sa place. Son but, c'est pas celui des communistes, ça c'est sûr.
Et en ce moment même, Fabien Roussel est sur scène avec au premier pour l'écouter, Jean-Luc Mélenchon.
Le reportage d'Antoine Decarne pour RTL. La droite, elle, fait sa rentrée en ordre dispersé. Aujourd'hui, le patron et sénateur Les Républicains, Bruno Retailleau, sera à la Baule. Valérie Pécresse sera dans l'Essonne avec son mouvement libre. Et demain, Laurent Wauquiez fera sa traditionnelle ascension du Mont Mézenc. L'enjeu pour la droite, qui pour mener les troupes. Un mot de foot avec la deuxième journée de Ligue 1. L'Olympique lyonnais est galvanisé par son parcours en Ligue des Champions. S'est largement imposé hier soir face à Dijon, 4-1, notamment grâce à un triplé du néerlandais Memphis Depay. À suivre à 17h, Rennes-Montpellier et à 21h, Strasbourg-Nice. Et bien sûr, on reprend les bonnes habitudes sur RTL. On refait le match à 18h30 avec Christian Olivier, suivi de RTL Foot de 20h à 23h. C'est sportif d'écrire tous les jours, Amélie Nothomb.
Ah, et c'est même un sport de combat. Vous savez, s'il m'arrive de me coucher à 2h du matin parce que je n'ai pas eu le choix, de savoir qu'à 4h ou plus tard, on va devoir se réveiller pour y aller, même si on n'a aucune inspiration, même si on s'en sent absolument pas la force, oui, c'est extrêmement sportif.
Ça a l'air d'être un sacré combat à l'intérieur de vous quand même, hein?
Oui, surtout quand on écrit certains livres. Je rappelle que le précédent que j'ai publié racontait la passion du Christ. Se réveiller chaque matin en se disant « Allez, maintenant tu retournes sur la croix », je vous assure que c'était très sportif.
Alors, Les Aérostats, c'est votre 29e roman. Avant tout, on va expliquer, je pense que les auditeurs se posent, certains en tout cas se posent la question, qu'est-ce qu'un aérostat? Vous voulez l'expliquer?
Un aérostat, ça s'oppose à aéronef. Les aéronefs, ce sont les avions, ce sont donc les véhicules qu'on dirige dans le ciel, alors que l'aérostat, c'est comme les ballons, s'élèvent d'eux-mêmes dans le ciel. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'un aérostat.
Alors voilà l'histoire de départ du livre. En tout cas, une jeune étudiante est engagée par un père de famille pour soigner la dyslexie prétendue, en tout cas de son fils. L'adolescent est passionné d'armes et il n'aime absolument pas lire. Enfin, c'est ce qu'il croit. Un jour, sa jeune professeure lui conseille de lire l'Iliade et là, c'est la révélation. Il dévore Homère en une nuit et il en redemande. Ça y est, non seulement il n'est plus dyslexique, mais en plus il a le goût pour la lecture et une relation toute particulière va se créer entre ces deux personnages. Qu'est-ce qui vous a donné, Amélie Nothomb, cette fois si clairement envie de nous dire « Lisez, développez votre goût pour la littérature classique, ça peut vous changer la vie ».
C'est ce qui m'est arrivé à moi-même pendant mon adolescence. J'étais très mal dans mon adolescence pour 18 000 raisons. Et ce qui m'a sauvée, c'est la lecture des classiques. On ne peut pas grandir dans le néant. On a besoin d'être tiré vers le haut. Le hasard, la curiosité m'a amenée à lire les classiques. Et là, tout de suite, je me suis sentie empoignée. J'ai pu sortir du néant, j'ai pu grandir grâce à cette lecture. Franchement, aujourd'hui, on dit que les adolescents ne lisent plus. Ce n'est pas vrai. Je corresponds avec énormément d'adolescents qui me demandent quoi lire.
Et vous leur répondez
quoi? Je leur réponds et en fonction de la personne que je sens de l'autre côté du papier, je conseille tel ou tel livre et les réactions sont extraordinaires.
Dans ce livre, on retrouve en tout cas nos grands classiques, hein, Stendhal, l'Iliade et l'Odyssée, la Princesse de Clèves, les Contes de Perrault. Quel a été, vous, le premier livre, le déclic, le grand classique qui a tout fait basculer?
Oh, ça a été Les Misérables que j'ai lu quand j'avais 9 ans. Alors évidemment, à la base, je voulais un petit peu épater mon entourage. Mais tel est prix qu'ils croyaient prendre, j'ai été absolument empoignée par ce livre. Et c'est un livre que j'ai eu l'occasion de relire pendant le confinement, puisque pendant le confinement, je n'avais rien à faire. Donc, je lisais, j'ai relu Les Misérables et je me suis encore plus rendu compte que c'est une œuvre absolument géniale.
Et vous parlez du confinement, justement. Comment faire aujourd'hui pour qu'un jeune qui a pris l'habitude, et notamment pendant le confinement, de consommer Netflix, soit aussi attiré par un bon bouquin, par un bon classique?
Mais il faut varier les plaisirs. Netflix, je suis sûre que c'est très agréable, mais rien ne remplace l'extraordinaire envoûtement que l'on éprouve quand on trouve le livre qui est fait pour soi. Tout le monde a quelque part un livre qui est fait pour soi, et particulièrement parmi les classiques. C'est une expérience si forte de tomber sur une œuvre de génie, et quelles œuvres de génie plus grandes que justement les classiques. Tout le monde devrait connaître ça.
C'est ce qui arrive à votre héros, en tout cas.
C'est ce qui arrive à mon personnage, qui croit qu'il est dyslexique, tout simplement parce qu'il n'a jamais lu de sa vie. Mais une fois qu'il découvre, bon, dans son cas, c'est Homère, l'Iliade, il y a pire, hein, comme commencement. Et c'est vrai que c'est une œuvre géniale. C'est ce que je propose. Quand on dit les jeunes n'aiment pas lire, je dis mais faites-leur lire des œuvres géniales. Quand on rencontre le génie, évidemment qu'on a envie de lire.
Ça fait envie. Vous écoutez, ça fait envie. Vous écoutez, auditeur, le journal inattendu sur RTL, notre invitée Amélie Nothomb. Si vous avez raté le début de cette émission, vous pouvez la rattraper sur notre nouvelle application RTL, à télécharger très facilement et gratuitement sur votre smartphone. Dans un instant, on va continuer à parler de votre dernier livre, Amélie Nothomb, Les Aéostats, dans lequel vous abordez aussi de façon très inattendue la jeunesse. À tout de suite.
Journal inattendu d'Amélie Nothomb.
Avec Ophélie Meunier sur RTL.
Amélie Nothomb, quand on lit la quatrième de couve de votre livre, c'est très surprenant. Il y a juste une phrase qui est la suivante. La jeunesse est un talent, il faut des années pour l'acquérir. La jeunesse donc est aussi abordée dans Les Aérostats avec cette phrase, je la répète, hein, la jeunesse est un talent, il faut des années pour l'acquérir. Ma première réaction à chaud, c'est ne pensez-vous pas que tous les jeunes bénéficient au départ de toute façon de cet état d'esprit qu'est la jeunesse ?
Écoutez, je pars du principe que d'autres ont dû se sentir comme moi. Quand j'avais 19 ans, je n'étais absolument pas jeune. Le personnage du roman qui s'appelle Ange, c'est moi. À 19 ans, j'étais d'un sérieux absolument effarant. Je ne faisais pas ce que font les jeunes. Je passais mon temps à lire. J'étais extraordinairement solitaire.
Et qu'est-ce que font les jeunes alors aujourd'hui, selon vous ? Qu'est-ce que doivent faire les jeunes pour être jeunes?
Je pense que la jeunesse, c'est d'abord la vitalité. J'avais, quand j'avais 19 ans, très peu de vitalité. C'est difficile d'avoir de la vitalité quand on est tout seul. Aussi longtemps qu'on n'a pas d'amis, qu'on est seul dans son coin. Bon, j'ai eu l'impression de devenir jeune à partir de 25 ans, et ça s'est vraiment arrangé par la suite. Une fois que je suis sortie de mon isolement, j'ai publié mon premier livre, les gens sont venus me rencontrer, ça a commencé à bien se passer pour moi. J'ai eu l'impression de devenir jeune beaucoup plus tard.
Ça a été ça le déclic, justement, la publication de votre premier roman, ça a tout changé
dans votre cas, vie. Oui. C'est ça, sortir de l'isolement et pouvoir exercer ma vitalité.
Justement, vous parliez à l'instant de la solitude à l'âge de l'adolescence pour écrire ce livre. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes inspirée de ce que des jeunes de 15-16 ans vivent aujourd'hui et vous racontent. Oui. Quel est le constat alors de leur témoignage ?
Le constat de leur témoignage, c'est qu'il est extrêmement facile de faire lire des adolescents de 15 ou 16 ans. Surtout quand, de leur propre initiative, ils vous demandent quoi lire. Je n'ai inventé aucune des expériences et des réactions que je décris dans mon livre. Toutes les réactions, aussi bien à Stendhal qu'à Homère, qu'à Radiguet, qu'à Kafka, sont une compilation de réactions que j'ai obtenues de la part de jeunes de 15 ou 16 ans qui m'ont demandé quoi lire.
Alors, sans tout dévoiler, c'est très disparate, hein, ces réactions.
C'est très disparate, en effet.
Certains romans, votre héros les adore et d'autres, il les déteste.
C'est
absolument.
Ça. Mais même quand il les déteste, je ne peux pas donner raison à quelqu'un qui déteste Stendhal ni à quelqu'un qui déteste Radiguet. Mais même la façon de détester est très intéressante parce qu'elle est très révélatrice aussi de l'attente que certains jeunes d'aujourd'hui ont vis-à-vis de la lecture. Ça me permet, par exemple, de dire que la littérature n'est pas l'art du bien. Parce qu'aujourd'hui, je constate chez beaucoup de jeunes une confusion entre la littérature et la morale. Ils disent « Mais madame, ça va pas, ce personnage, ce qu'il fait, c'est n'importe quoi, c'est horrible. » Je dis « Oui, mais où allez-vous chercher qu'un personnage de littérature est un être qui se conduit bien ?»
On peut dévoiler si la morale de ce livre est bonne ou mauvaise ? Vous voulez le dire ?
Alors, moi, je la trouve étincelante, mais elle est totalement immorale, bien sûr.
Totalement immorale, on le dit. Vous avez souhaité, Amélie Nothomb, faire découvrir aux auditeurs d'RTL l'un de vos films préférés, livres, mais aussi films préférés, qui est aussi l'un des plus grands chefs-d'œuvre hein, du cinéma de tous les temps, c'est Sueur froide, d'Alfred Hitchcock.
C'est ça, Vertigo, dans son premier titre. C'est probablement le film que j'ai le plus revu. Plus on le revoit, plus il est mystérieux. Ce qui fait la grande réussite de Vertigo, c'est ce personnage féminin incarné par Kim Novak, qui est une ambiguïté totale. Et plus on regarde le film, plus ce personnage est ambigu.
On dit que Vertigo, on entend un extrait derrière nous, c'est l'œuvre ultime d'Hitchcock. Quelle est l'œuvre ultime aujourd'hui d'Amélie Nothomb? Est-ce qu'elle a déjà été écrite? Est-ce qu'elle a déjà été publiée?
Je suppose que je ne suis pas la personne qui devrait répondre à cette question, mais puisque vous me la posez, je dirais quand même que oui, puisque j'ai toujours dit le but de ma vie, c'était d'écrire Soif. Soif, c'est mon roman qui est paru en 2019. C'est assez extraordinaire de se dire que maintenant, si un camion m'écrase dans la rue, ça n'a aucune importance. J'ai écrit le livre que je voulais écrire. Ça ne signifie pas que tout ce que j'écrirai par la suite n'a aucune importance. Il demeure très important pour moi d'écrire. Mais voilà, le but de ma vie est accompli.
Donc, il faut lire Soif et les aérostats. Alors, dans un instant, on va continuer d'explorer ce qui vous inspire, Amélie Nothomb. C'est souvent très surprenant. On va recevoir votre invité, l'écrivain Stéphanie Hochet. Et on va aussi découvrir votre reportage inattendu. Je n'ai qu'un mot à dire. Champagne. À tout de suite. Vous êtes bien sur RTL.
Journal inattendu d'Amélie Nothomb.
13h, les titres de l'actualité, Ophélie Meunier.
C'est dans une heure, lancement de la 107e édition du Tour de France. Elle n'aura jamais autant fait parler. Les équipes s'apprêtent à s'élancer depuis Nice, mais savent aussi qu'elles sont soumises à des règles inédites à cause de l'épidémie. Si deux cas de Covid sont avérés au sein d'une même équipe, coureurs et encadrement compris en une semaine, elle pourra être exclue du Tour. Une édition toute particulière aussi pour le public, habituellement très nombreux sur le bord des routes. Cette année, il ne sera pas le bienvenu. Vous pouvez suivre toutes les demi-heures à partir de 14h les étapes de ce Tour de France 2020 en direct sur RTL avec nos envoyés spéciaux. Dans l'actualité également, cette progression exponentielle de cas positifs au Covid-19, plus de 7000 hier, c'est un record depuis que les tests sont réalisés massivement. Pas de quoi s'inquiéter, mais il faut rester extrêmement vigilant. Dans ce contexte, de plus en plus de villes rendent obligatoire le port du masque en toutes circonstances. Après Paris et Marseille, depuis aujourd'hui, il est obligatoire à Strasbourg et il le sera dès lundi à Bordeaux. La politique avec un week-end d'université d'été. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, prône le rassemblement pour une gauche revigorée par les bons résultats aux municipales. Objectif, tout faire pour éviter un nouveau duel Macron-Le Pen en 2022. Jean-Luc Mélenchon, lui, croit en son alliance avec les communistes. Il est aujourd'hui à Malo-les-Bains où se tient l'université d'été du PCF. La droite, elle, a choisi de faire une rentrée plus dispersée alors que Bruno Retailleau est à la Baule. Valérie Pécresse, elle, est dans l'Essonne. L'enjeu pour les Républicains, trouver leur leader pour la présidentielle. Et puis c'est le dernier grand week-end des retours des vacances. Même si beaucoup d'entre vous sont déjà rentrés cette semaine, vous serez encore nombreux sur les routes ce samedi. Bison futé, voie rouge dans le sens des retours avec les habituels bouchons dans la vallée du Rhône et dans l'Ouest. Armez-vous de patience et surtout soyez prudents. Certains ont d'ailleurs choisi d'attendre le dernier moment pour rentrer. Demain sera classé orange au niveau national dans le sens des retours. Chaque semaine à 13h, les auditeurs ont la chance de découvrir une météo tout à fait inattendue, puisqu'elle est faite par notre invité. Et en plus, il paraît que c'était un rêve, Amélie Nothomb.
Mais c'était mon rêve, j'adore la météo. La première météo de ma vie.
C'est à vous.
La météo se présente automnale aujourd'hui avec des averses entrecoupées de petites éclaircies et d'une baisse des températures. On trouvera un ciel bien dégagé en Corse et quelques beaux moments de soleil sur la pointe bretonne. À l'inverse, les pluies seront soutenues tout au long de l'après-midi dans les régions alpines. Il fera 19 degrés à Rennes, 21 à Paris et 23 à Lyon et à Montélimar. Oh, quelle jouissance.
Waouh, on a senti dans la voix. Amélie Nothomb, vous êtes là pour nous parler, entre autres, de votre dernier roman, Les aérostats. Si les aérostats devaient être une météo, ce serait quoi ?
L'automne. Ça me paraît vraiment un roman très automnal. Ça, c'est rentrée des classes.
Moi, j'aurais dit changeante.
Ah oui ?
Soleil nuageux avec quelques coups de tonnerre.
Ça oui, vous avez raison, ça me va très bien.
C'est vous aujourd'hui, Amélie Nothomb, qui prenez les commandes de ce journal inattendu. Et vous avez souhaité nous faire découvrir l'une de vos grandes passions,
Le champagne.
Vous avez dit, le champagne rend gracieux, à la fois léger et profond, désintéressé. Il exalte l'amour et confère de l'élégance à la perte de celui-ci. Mais vous avez déjà vraiment vécu tout ça en buvant du champagne ?
Oui, mais vous savez, c'est ma grande spécialité, le champagne. Quand je n'écris pas, je bois du champagne.
C'est très clair. À quoi s'attendre alors pour la cuvée 2020 ? C'est la question que vous nous avez posée. C'est votre choix de reportage inattendu. Il est signé Dimitri Ramelot.
Dans l'une de ces parcelles de vignes tout juste vendangées, Clément Lust fait le tour des caisses de raisins, prêtes à être ramassées par un engin agricole. Et son tout premier constat est plutôt positif.
Donc là, on voit les grappes dans les caisses. On voit que les raisins ont une petite couleur un peu jaune. Donc ça, c'est signe que la maturité, elle est là. Quand on les touche, les grappes sont encore assez fermes. Donc ça, c'est qu'on a vendangé au bon moment.
Et direction le pressoir, pour chaque caisse de 40 kilos, impossible de dire ce que sera le millésime 2020. Beaucoup trop tôt, mais plusieurs indices permettent d'être optimiste pour Dominique Lust, associé de la maison.
Le champagne, c'est vraiment un équilibre entre le sucre et l'acide. Et cette année, le sucre, il est là. Par contre, ça manquera sans doute un peu d'acidité. Quand on était à 9, 9,5, c'était bien. Aujourd'hui, on a les premiers mars qui sont à 10,5, donc c'est 2 mois d'avance.
Et les vins qui devraient être un peu moins dilués sont déjà qualifiés de costauds et de garde par les vignerons. Et pour l'expliquer, pas de maladie et 2 mois sans pluie. Pascal Lust, du Syndicat Général des Vignerons, y voit les effets du réchauffement climatique.
Sur les 10 dernières années, on va avoir vendangé 6 fois en août. J'ai jamais vu. Tout le monde parlait toujours des premières vendanges, par exemple à Perpignan, dans le Riesewald, des choses comme ça. Puis nous, on vendangeait presque un mois après. Aujourd'hui, on est aux mêmes dates que Riesewald, un départ 15 août. Le nord et le sud, on a l'impression qu'ils se rencontrent, quoi.
Et plus pragmatique, le recrutement des saisonniers et notamment des étudiants est plus simple car les vendanges interviennent désormais bien plus tôt que la rentrée de septembre, comme l'explique Bertrand Trépeau, président de l'association de promotion du champagne des Coteaux Vitria.
Normalement, on va avoir des vins de plus en plus sucrés, donc avec un potentiel d'alcool plus important. Nous, en Champagne, on ne fait pas du Porto. Donc il faut qu'on veille à mettre des dates de vendange, à être très réactif pour ne pas laisser le raisin avoir trop de sucre. Ça, c'est le premier paramètre. Et le deuxième, c'est l'acidité. Si jamais elle disparaissait de nos vins, on risquerait d'avoir des vins qui sont plats et qui vieillissent moins bien. Jusqu'à présent, on avait une fermentation qui ne visait uniquement qu'à baisser l'acidité des vins. Donc notre première réponse au réchauffement climatique, c'est de plus faire cette fermentation malolactique.
Et les raisins de Bassuet entre vignes et pressoirs seront en bouteille en mars prochain, puis 3 à 4 ans à l'ombre avant de finir dans nos verres courant 2023.
Comment vous vous sentez à l'écoute de ce reportage ? Est-ce que ce sont de bonnes nouvelles ?
Ce sont de très bonnes nouvelles parce que donc c'est une grande année. On va avoir un très très grand champagne 2020 et je pense qu'on a encore plus besoin de champagne. Bon, l'air Covid n'est pas rigolote tous les jours. Raison de plus pour qu'on boive plus d'excellent champagne.
Ça vous donne une bonne raison en tout cas de continuer à boire beaucoup de champagne. Vous adorez ça.
J'adore ça et je pense que le but de la vie est de boire du très bon champagne.
Bonjour Stéphanie Hochet, vous nous avez rejoint dans ce studio. Vous êtes l'invitée d'Amélie Nothomb, vous êtes écrivain et aussi l'une de ses plus proches amies. Laquelle des deux aime le plus le champagne d'ailleurs?
C'est Amélie, sans contexte.
Quand même, spontanément. Je pose cette question parce qu'en plus de l'écriture, le champagne vous lie tout de même.
Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle Petroni.
Absolument.
L'héroïne de Petroni, c'est Stéphanie Hochet, c'est elle, Petroni, et c'est une amitié sur le thème du champagne.
Alors, qu'est-ce que je peux rajouter
Et de la littérature, puisque Petroni, alias Stéphanie Hochet, est romancière et c'est aujourd'hui pour ton chef-d'œuvre absolu, publié en mars dernier, à savoir Pacifique.
Ah, on va en parler justement.
Que tu es invitée aujourd'hui.
Mais j'arrête d'écrire là.
un mot sur le champagne, vous tenez la route quand même?
Amélie a une bien meilleure descente que moi, mais c'est vrai que la littérature et le champagne vont très bien ensemble.
Pourquoi?
Parce que c'est l'exigence. Les deux sont exigeants, les deux sont de l'art, en fait. Donc, j'aurais pu dire que la peinture et la littérature vont très bien ensemble. Mais bon, le champagne, c'est quand même bien aussi.
Le champagne, comme la littérature, ne supporte pas la médiocrité. Voilà.
Comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux?
C'était il y a 22 ans, je crois.
Il y a 22 ans, c'était à une séance de dédicace. Je vois arriver une petite adolescente qui s'avère être Stéphanie Hochet. Et on entame une correspondance, une plume exceptionnelle. Et quelques années plus tard, je découvre que Stéphanie Hochet est écrivain.
Ça vous va comme résumé de
l'histoire ? Je n'ai rien à ajouter.
Votre regard sur votre rencontre avec Amélie Nothomb ?
C'est-à-dire
qu'est-ce qui vous a poussé à venir à cette dédicace?
Alors, je l'avais entendu à la radio, comme quoi la voix, c'est important. Je l'avais trouvé extraordinairement drôle et je m'étais dit, enfin, un écrivain qui est drôle. Mm-hmm. Je trouvais que la plupart des écrivains que j'entendais à la radio étaient un petit peu ennuyeux, se prenaient au sérieux. Et je trouvais que là, ça, la voix détonnait totalement. Moi, je rentrais de l'étranger, j'avais vécu en Écosse. Je veux dire, je revenais... à Paris avec un peu de déprime et je me disais bon voilà, je ne croyais plus en rien et j'ai entendu cette petite voix et j'ai trouvé qu'elle est drôle celle-ci et j'ai eu envie de lire ses livres et puis voilà, j'ai été conquise par cette prose, cette inventivité, cette énergie et je trouvais que les livres ressemblaient à cette voix.
Et vous êtes depuis devenu écrivain aussi grâce à Amélie Nothomb, n'est-ce pas ?
Je suis devenue, enfin j'écrivais et, ouais. Et puis j'ai publié, Amélie s'est intéressée à mes livres tout simplement.
Stéphanie n'est pas du tout devenue écrivain grâce à moi, mais c'est vrai que quand on me demande quel écrivain d'aujourd'hui me fascine, je réponds toujours Stéphanie Hochet.
Vous avez toutes les deux une façon de vivre les dédicaces, en tout cas extrêmement différente, voire opposée. Vous adorez ça, Amélie Nothomb, c'est un grand moment à chaque fois pour vous et pour vos lecteurs. Vous détestez ça, Stéphanie Hochet.
C'est-à-dire que si c'est...
Détestez peut-être pas, mais en tout cas, c'est pas du tout une partie de plaisir pour vous.
Je suis un peu plus sauvage qu'Amélie, c'est sûr.
Donc ça aide pas pour les dédicaces.
Vous savez, moi j'ai écrit un livre sur le chat, moi je suis beaucoup plus chat et Amélie beaucoup plus oiseau. Donc on est très très différentes en fait.
Et pourtant, les dédicaces, c'est extrêmement important dans la vie des écrivains.
Ah, j'adore ça. J'adore ça parce que c'est le moment où on découvre qui se cache de l'autre côté du papier. Mais je tiens à le dire, Stéphanie, je l'ai rencontrée en dédicace. Donc vous imaginez comme c'est important une dédicace.
Est-ce que vous pouvez nous révéler, Stéphanie Hochet, quelque chose de secret sur Amélie Nothomb ? Ou d'inattendu ?
Ça, c'est difficile. Je ne pourrais pas dire quelque chose de secret ou d'inattendu, mais c'est quelqu'un qui m'épate toujours par son intelligence. Alors, je sais que c'est complètement bateau de dire ça, mais voilà, par exemple, moi, je lui parle de mes projets de livres j'attends de discuter avec elle de tout ça. Elle ne m'en parle absolument jamais. Elle crée toute seule. Vraiment, c'est assez surprenant. Rien n'émerge, en fait, de ce qu'elle écrit. Alors que moi, j'ai envie de discuter avec elle de ce que je suis en train de faire, etc. Et puis on a des discussions assez intéressantes, quoi. Et là, c'est la grande différence entre nous deux, c'est que moi je partage et elle c'est vraiment une machine en fait qui fonctionne toute seule et puis tout d'un coup elle lâche son roman et c'est assez étonnant.
Une machine qui fonctionne toute seule, ça vous va ça comme description?
J'adore, c'est vrai que je ne pratique pas l'échographie, je dis toujours que je suis enceinte de mes livres et quand je suis en train d'écrire un livre il n'est pas question, il n'est pas possible que j'en parle à qui que ce soit.
Merci Stéphanie Hochet pour ce moment avec nous. Dans un instant, Amélie Nothomb, on continue d'explorer vos passions. Il y a encore beaucoup de choses à révéler et on vous prépare une petite surprise qui devrait vous mettre l'eau à la bouche normalement. Est-ce que vous êtes gourmande ?
Extrêmement.
Ah, tant mieux, à tout de suite alors sur RTL.
Le journal inattendu d'Amélie Nothomb avec Ophélie Meunier sur RTL.
Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again.
So good morning, good morning. Sunbeams will soon smile through. Good morning, good morning.
On a tous reconnu Singing in the Rain, bien sûr. Vous m'avez dit en écoutant l'extrait, j'adore. Les gens dansent dans la régie, vous ne les voyez pas, mais ça fait du bien dans le studio, cette musique.
Ça marche à tous les coups. Si vous êtes au dernier degré de la déprime, vous regardez ou vous écoutez Singing in the Rain, ça marche toujours.
Donald O'Connor, Golden Globes, du meilleur acteur, les récompenses, un grand sujet dans la vie d'un artiste, d'un acteur ou d'un écrivain. Vous avez été très récompensé, notamment vous avez reçu le Grand Prix du roman de l'Académie française pour Stupeur et Tremblement. Vous étiez sur la liste du Goncourt avec Soif. Finalement, c'était pas pour cette fois et vous avez dit « Je me suis faite à l'idée que je n'aurais pas le Goncourt ». Jamais, ne jamais dire jamais, Amélie Nothomb.
Oui, bon, si je ne l'ai pas eu pour Soif, je pense que je ne l'aurai jamais. Il n'y a pas que
mais
de mauvais côté.
On ne peut pas se dire ça.
On ne peut pas se dire ça, mais vous savez, il paraît que la meilleure partie de la vie d'un écrivain est celle qui précède l'obtention du prix Goncourt. Donc autant faire durer cette période beaucoup plus longtemps.
C'est Singing in the Rain qui vous fait voir les choses voilà, de manière si positive. Je ne sais pas si les auditeurs s'attendent en tout cas à ce que vous écoutiez ça, Amélie Nothomb.
You're the monster, you're in my bed. Making mess, I keep trying to address.
Alors c'est Julianne Calore, Monster. Quand j'ai su que vous écoutiez ce titre, j'ai été extrêmement surprise. Je ne vous vois pas écouter cette musique. Je suis désolée. Hein. Qu'est-ce que vous aimez dans cette musique?
Je trouve ça magnifique. Bon, c'est de l'électro-hollandaise. Qui croirait même que ça existe? Pour moi, ça a été la chanson du confinement. J'étais très déprimée pendant le confinement. Mon père venait de mourir. En plus, c'était le confinement. Je ne pouvais pas aller à son enterrement. J'ai écouté cette musique presque en boucle pendant le confinement. Ça s'appelle Monster. C'est You're the Monster Under My Bed. C'est une chanson d'amour. Qui décrit l'être aimé comme une présence terrifiante. Je trouve que c'est très très beau.
Vous aimez aussi le classique, oui. Vous aimez l'électro-hollandais, vous aimez le rock. Elle est quoi dans tout ça, Amélie Nothomb? Elle est plus classique, plus rock ou plus électro?
Plus amoureuse de la musique. Je n'ai pas de préférence. J'aime tout ce qui relève de la grande musique. Je trouve que aussi bien en rock qu'en électro, qu'en métal et qu'en classique, bien sûr, il y a de la très grande musique.
On entend l'héroïque de Chopin. Une bonne musique classique, comme un bon roman classique, finalement, ça aussi, c'est important dans la vie.
C'est terriblement important, mais il faut aussi être ouvert aux nouveaux classiques. Je suis sûre que parmi les musiques qu'on crée aujourd'hui, beaucoup vont devenir de nouveaux classiques.
Et donc, notamment à l'électro-hollandais. Amélie Nothomb, vous avez publié 29 romans, mais vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes en train d'écrire votre centième manuscrit. Dans un instant, vous allez nous révéler à qui vous souhaiteriez les confier, parce que c'est un sacré trésor hein, quand même à mettre à l'abri. On va savoir ça tout de suite.
Le journal inattendu d'Amélie Nothomb avec Ophélie Meunier sur RTL.
RTL. 12h30, 13h30. Le journal inattendu sur RTL avec Amélie Nothomb et Ophélie Meunier.
C'est la bande-annonce du film Furio, film autobiographique sur des prisonniers de guerre dans des camps japonais. La bande originale qu'on entend là en ce moment est devenue un succès mondial. Vous avez, on le sait, une relation très forte avec le Japon. Quelle influence a ce pays encore aujourd'hui dans votre vie ?
C'est une école de rigueur et d'harmonie. Je pense que si je suis si rigoureuse dans mon écriture, c'est en grande partie grâce au Japon. C'est l'écriture comme une discipline dans laquelle on s'oublie. C'est très très important.
Je crois que vous avez aussi une appétence particulière pour la nourriture japonaise.
J'adore la nourriture japonaise.
Ah, alors, ça tombe bien, on a une petite surprise pour vous, au téléphone. Bonjour Cyril Lignac.
Bonjour.
Mais bonjour Cyril.
Alors, J'adore quand vous dites la rigueur et l'harmonie, parce que c'est tellement ça dans la cuisine japonaise aussi, cette harmonie des saveurs, cette délicatesse de travail des produits et ce grand respect qu'ont les Japonais face à la cuisine et à l'alimentation. Et donc, je ne peux qu'être archi d'accord avec vous.
Cyril, vous savez donc que Amélie Nothomb est une grande amatrice de vos sushis. Est-ce que vous saviez ça?
Et bien sûr que je le sais. Je sais qui c'est qu'il y a dans mes restaurants.
C'est quand même une amatrice de marque. Hein. Vous avez attention, pour la suite, il va falloir continuer à plaire à Amélie Nothomb avec de nouvelles recettes japonaises. Est-ce que vous avez quelques idées de ce que vous pourrez faire?
Là, je sais qu'elle a un palais très affûté, puisque quand on aime la cuisine japonaise, on aime la cuisine lisible, avec des saveurs lisibles. Mm-hmm. Donc, je m'affaire à faire que ce soit toujours parfait.
Comment vous avez découvert la cuisine de Cyril Lignac, Amélie Nothomb?
C'est grâce à Florence, qui est ma meilleure amie, qui m'a souvent invitée au restaurant de Cyril Lignac, qui a le grand mérite de servir avec ses merveilleux sushis de très grands champagnes, prouvant ainsi que champagne et sushis, ça va très bien ensemble.
Exactement.
Et qu'est-ce que vous aimez manger, à part les sushis? Est-ce que vous m'avez dit juste avant que vous étiez une grande gourmande, alors qu'est-ce qui vous plaît?
Alors j'aime aussi énormément la cuisine populaire japonaise. Je pense aux okonomiyaki, c'est un peu l'omelette japonaise. On en trouve d'excellents chez Aki, rue Sainte-Anne.
Vous connaissez ça, Cyril?
Oui, bien sûr que je connais.
Vous la faites?
Non.
Non,
non, parce que moi je fais...
Mais il va falloir s'y mettre.
C'est plutôt cru, en fait. Mais...
C'est vrai.
Mais j'ai découvert, pendant le confinement, je me suis penché sur les ramen. Ah. Et ça, c'est formidable. Je ne connaissais pas, je ne savais pas les faire. J'ai appris à les faire et c'est vraiment délicieux.
Vous faites plein d'autres cuisines, hein, Cyril Lignac, autres que la cuisine japonaise, mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'apprendre cette cuisine-là en particulier?
Ben, parce que c'est une cuisine qui me plaît. C'est une cuisine où quand on mange, on se lève de table, on se sent bien, léger. Et je trouve que c'est très important dans l'alimentation d'aujourd'hui. Voilà.
Qu'est-ce que vous conseilleriez d'autre, Cyril, dans votre cuisine, à votre carte, dans vos restaurants, à Amélie Nothomb, là, qui pourrait la surprendre, qui lui donnerait envie d'aller ce soir manger chez vous?
Je sais pas comme ça, parce que je fais la cuisine que je ressens, donc j'ai pas pensé à une nouvelle recette là.
Non, mais oui, quelque chose que vous faites actuellement, pas forcément une nouvelle recette, mais là, quelque chose que vous avez à la carte, une de vos spécialités, que vous rêveriez qu'Amélie Nothomb goûte.
J'aime beaucoup le carpaccio de thon avec du ponzu et du yuzu.
Wow.
Tout en fraîcheur et quelques brins d'algues posées dessus.
Ça vous dit ça, Amélie Nothomb?
Cyril, j'arrive.
Ah bon, ça tombe bien, je suis dans la cuisine, il y a un peu de bruit là, mais je sais pas si ça s'entend à la radio, mais en tout cas, je suis dans la cuisine, donc c'est pour ça, j'ai fait taire la cuisine.
Mais c'est très bien.
C'est la casserole qui est là, voilà.
Ça nous met en appétit. Merci Cyril, je rappelle qu'on vous retrouve tous les matins sur RTL pour l'astuce du chef et tous les soirs sur M6 pour Tous en cuisine en direct avec Jérôme Anthony. À bientôt Cyril Lignac. Merci
allez,
beaucoup.
On va faire du bruit les gars, c'est reparti.
En fin d'émission chaque semaine, on va instaurer un nouveau rituel. Je vais proposer à mon invité de laisser un message à quelqu'un de son choix. Il pourra prendre cette occasion pour faire passer une demande à quelqu'un, dire ce qu'il a sur le cœur, révéler une information inattendue, tout ce que vous voulez. En tout cas, vous inaugurez Amélie Nothomb. Alors, à qui avez-vous choisi de laisser un message aujourd'hui?
Au Vatican.
Pourquoi?
Parce que c'est un lieu sûr.
On ne s'attendait pas à ça, hein. Expliquez-nous.
Alors voilà, j'ai un petit problème. Je viens de dire que j'ai commencé à écrire mon 100e manuscrit. Je n'en ai publié que 29. Donc si mes calculs sont exacts, il en reste, ça fait quoi, 61 qui ne sont pas publiés et qui ne le seront pas. Et je tiens à ce qu'après ma mort, ils ne soient plus pas publiés. Je ne sais pas compter, vous savez. Bref, les chiffres vont empirer puisque je ne suis pas encore morte. Je cherche un lieu sûr qui puisse protéger mes manuscrits. Et j'ai tout de suite pensé à l'enfer de la bibliothèque vaticane, qui me semble le lieu le plus sûr du monde. Mais pour ça, il faudrait encore que j'aie de bonnes relations avec le Vatican. Je n'ai aucune idée de la nature de mes relations avec le Vatican. Donc j'adresse un message au Vatican.
On va essayer, en tout cas. On espère recevoir une réponse. Donc Amélie Nothomb, dans un instant, vous serez sur le répondeur du journal Inattendu, qui va transférer votre message donc à la bibliothèque du Vatican.
Vous êtes bien sur le répondeur du journal Inattendu, votre message après le bip sonore.
Cher Vatican, voilà, je suis dépositaire de plus de 70 manuscrits non publiés. Ils sont tout petits, mais je les considère comme un petit peu explosifs. Je pense qu'ils ne dépareraient pas dans votre magnifique enfer, l'enfer de votre bibliothèque. Est-ce que vous me feriez l'extrême honneur, chers amis du Vatican, d'héberger après ma mort, c'est-à-dire pas tout à fait tout de suite, ces manuscrits de manière à ce qu'ils ne soient jamais montrés à qui que ce soit? Merci Vatican. Au revoir Vatican.
Votre message est enregistré. On espère, mais vraiment, recevoir une réponse. C'était une inauguration du répondeur du journal Inattendu, exceptionnelle. Merci beaucoup, Amélie Nothomb, d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir donné le coup d'envoi de cette nouvelle année, de cette nouvelle saison. C'était un jour important. Je rappelle que votre 29e roman, Les Aérostats, est disponible aux éditions Albin Michel. Si vous avez raté le journal Inattendu d'Amélie Nothomb, vous pouvez le rattraper dès maintenant sur notre nouvelle application RTL. Allez y faire un tour. Il y a des replays et des podcasts inédits également à découvrir. La semaine prochaine, mon invité, Emmanuel Béard, dans un instant confidentiel avec Jean-Alphonse Richard. Je vous souhaite un très bel après-midi, un bon week-end. Et je vous retrouve avec un immense plaisir samedi prochain.